J'aimerais parler ce matin sur le leader selon le cœur de Dieu, deuxième partie. On en a parlé la semaine dernière, mais j'aimerais poursuivre sur ce thème en partant de ce texte, psaume 78, verset 70. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Le leader serviteur. D'abord, le leader serviteur, ça nous parle d'un cœur. Le cœur de David était intègre. C'est quelqu'un qui aimait Dieu par-dessus toute chose. Il avait mis Dieu en premier dans sa vie, et c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Il y a d'abord le savoir-être, avant de faire des choses pour le Seigneur qui soit agréé de Dieu, il faut déjà avoir ce cœur qui plaît à Dieu. Alors on ne va pas prendre modèle sur les leaders humains, on en a parlé la semaine dernière, Jésus qui dit que dans ce monde, les leaders, ils écrasent, ils dominent, mais il dit au milieu de vous, il ne doit pas en être ainsi. Quel est la caractéristique du leader dans l'Église? Il sert dans l'amour, il sert avec un cœur intègre, il sert avec douceur et il sert pour le Seigneur, pour sa gloire et il cherche à honorer Dieu. Ce sont les caractéristiques qui n'existent pas dans le monde mais qu'on retrouve dans l'Église. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre va parler aux anciens responsables spirituels des églises locales. Il dit ceci en mettant en avant un modèle de leader-serviteur, 1 Pierre 5:2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà le leader serviteur. Avec sa il le fait volontairement, il le fait avec dévouement, il le fait comme étant un modèle, son cœur est au Seigneur. Alors je continue parce que David, il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent en fait ce qu'est le leader serviteur. On en avait vu certains nombres la dernière fois, je n'y reviens pas mais je continue. Dans 1 Samuel 21 verset 3, on voit que David fait avec tout ce qu'il a sous la main. 1 Samuel 21, 3, maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce que tu trouveras. Et puis au verset 8, toujours dans le même chapitre, David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Le leader donc va utiliser tout ce qui lui tombe sous la main pour servir. Il ne va pas attendre d'avoir tout le matériel d'avance, mais il va utiliser bien ce qu'il trouve. Et il commence avec ce qu'il a. On sait que David a fui Saül les mains vides. Il n'avait rien avec lui. Il a fui pour sauver sa vie. Il se rend ici à Nob. Donc, Achimélec, qui est le sacrificateur de Nob. Et Achimélec, c'est intéressant, ce nom, ça veut dire frère d'un roi. Et nous savons que David est déjà appelé à la royauté. Et il a trouvé chez Achimélec un frère. Eh bien, frères et sœurs, Dieu vous donnera des frères et des sœurs dans les moments difficiles qui vous soutiendront, qui seront pour vous pleins de compassion, bienveillants, qui vous aideront dans les difficultés, qui pourvoiront à votre besoin. David aurait pu se plaindre en disant à Achimélec, mais le roi est méchant, il me pourchasse, personne ne m'aime et moi je n'ai rien fait. Il pourrait se plaindre de son sort. La première préoccupation de David, ce n'est pas lui-même, ce sont ses hommes qui l'ont suivi. Et il se dit, mais comment est-ce que je vais les nourrir? Qu'as-tu sous la main? 5 pains, ça va pourvoir pour mes hommes, ça donnera au moins quelque chose à manger. Voyez, quand on se soucie toujours de soi-même, quand on est toujours les yeux fixés sur nos propres besoins, on ne peut pas servir comme un leader. Il n'y a pas de possibilité, on tourne en rond. Philippiens 2,4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. David considérait l'intérêt des autres. Et le leader ne doit pas être égocentrique, mais il voit les besoins et il cherche des solutions pour aider les autres, les cinq pains. On aurait pu mépriser cinq pains, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cinq pains? C'est ce qu'ont dit les disciples. Lorsque Jésus a demandé aux disciples de nourrir la foule, ils ont trouvé que cinq pains et deux poissons, et certains disaient, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Ce n'est pas la peine. Mais David n'a pas méprisé ces cinq pains, comme Jésus n'a pas méprisé les cinq pains et les deux poissons, c'est ce qu'il avait sous la main. Eh bien, Dieu nous demande de faire avec ce que nous avons sous la main. On n'a pas grand-chose, mais on va le mettre entre les mains du Seigneur. Et puis, Jésus a prié, les pains se sont multipliés. David a pris ses cinq pains et il a pu nourrir les vaillants soldats qui étaient partis avec lui. Ils n'avaient pas d'armes. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Ils n'avaient pas d'armes. Mais là, il y avait l'épée de Goliath. C'est intéressant parce que cette épée, elle était stockée ici. Personne ne le savait, mais elle était là quelque part. En fait, elle attendait que David arrive un jour. Dieu sait que nous aurons besoin de matériel. Dieu sait que nous aurons besoin de tel ou tel élément. Pourtant, c'était l'arme de son ennemi. On aurait pu la détruire, on aurait pu la jeter. C'était l'arme de Goliath. Goliath était un Philistin, il était méchant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette arme? Ça ne sert à rien de la garder. Mais voyez, Dieu savait qu'un jour, David, dans la difficulté, aurait besoin de cette arme. Alors elle était ici, auprès d'Achimélec, dans un coin, et puis c'était réservé pour lui. En fait, personne ne le savait, mais Dieu l'avait mis de côté pour David. Eh bien, il y a des choses qui nous sont réservées avec notre nom dessus. Elles sont en attente pour le moment où on sera dans la détresse, dans la difficulté. Eh bien, elles reviendront à la lumière d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a quelque chose qui nous est réservé quelque part, comme cette épée attendait David. David fait avec tout ce qu'il a sous la main. Un autre point, David est imaginatif pour sortir des situations compliquées. 1 Samuel 21, verset 13. 1 Samuel 21, verset 13. « Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il se faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Il se rendait comme fou. » David, donc, dans son désir de fuir Saül, est allé même chez les ennemis du peuple de Dieu, chez les Philistins. Et chez les Philistins, il était aussi connu parce qu'il avait vaincu Goliath et aussi parce que sa renommée dépassait son propre pays. Les chants de victoire sur David existaient. Saül a tué ses 1000, mais David, ses 10 000. Les chants de David, donc, sa popularité dépassait les frontières d'Israël. Et David s'est retrouvé chez le roi ennemi, de qui il avait tué Goliath, un Philistin. Et il a dit, « Seigneur, comment je vais m'en sortir ?» Et il a eu cette idée, je ne sais pas si on aurait eu cette idée, mais il a eu cette idée de faire le fou. Il a fait le fou. Il a laissé la bave couler de sa barbe, il s'est roulé par terre, il a fait des marques sur les portes. Et le roi a cru qu'il était fou et il l'a fait chasser de sa présence. Il disait, mais pourquoi m'amenez-vous ce fou? J'ai déjà assez de fous dans mon royaume, mettez-le à la porte. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. Mais ça, c'est une idée que Dieu lui a donnée, parce que c'était assez inimaginable de faire une chose pareille. C'est pareil pour nous, frères et sœurs. Quelquefois, nous serons dans des situations tellement compliquées, il n'y a pas d'issue, mais Dieu peut nous donner la bonne idée, l'idée qui vient de Dieu, qui nous permettra de sortir de cette situation. Si vous êtes dans une impasse, alors priez le Seigneur qu'il vous donne l'idée. C'est Dieu qui nous a donné la capacité d'imaginer. Vous voyez, notre cerveau, il paraît qu'on peut avoir jusqu'à 90 000 pensées dans une seule journée. C'est les statistiques. Enfin, pour ceux qui pensent le plus. Sinon, c'est autour de 20 000. Entre 20 000 et 90 000. C'est impressionnant, toutes les pensées qui circulent dans notre esprit. Mais Dieu peut nous donner de bonnes idées et nous inspirer dans les moments difficile. C'est arrivé un jour à quatre hommes qui avaient un ami qui était paralytique. Et ils voulaient absolument que cet ami rencontre Jésus. Mais ce jour-là, c'était à Capernaum, dans la maison. On ne sait pas la maison de qui, mais Jésus était dans la maison. Il prêchait, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas rentrer par la porte. Et le texte dit qu'il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule. Il cherchait une idée, il cherchait une solution et il voulait que le paralytique soit présenté devant Jésus. Il poussait les gens ne voulaient pas laisser la place. L'idée, on va monter sur le toit, on va ouvrir les feuillages, les tuiles, les branchages et on va le faire descendre devant Jésus. L'idée, c'était audacieux parce que la maison quand même, il fallait bouger les tuiles, il fallait faire des choses, mais ils l'ont fait et ils ont osé, été audacieux. Ils ne se sont pas laissés arrêter par les impossibilités, ils ont été audacieux. Dieu leur a donné la bonne idée. Alors je pense qu'on peut prier, frères et sœurs, pour que Dieu nous inspire pour trouver la bonne idée pour nous sortir des situations compliquées. Un autre point, le leader réussit à conduire toutes sortes de gens différents. Dans 1 Samuel chapitre 22, verset 1, toujours David, il partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. C'est intéressant ce texte parce que les premiers mentionnés ici, ce sont ses frères. Et si vous vous rappelez, ses frères n'appréciaient pas David. Ses frères étaient jaloux, ils l'ont mal jugé, notamment Éliab, qui lui se voyait bien être choisi par Dieu pour être roi. Il l'avait méprisé et lui avait dit « Mais pourquoi as-tu abandonné ces brebis pour venir sur le champ de bataille ?» Il lui parle mal, c'est toujours comme ça. Vous voulez faire du bien, il y a toujours des gens qui vont dire du mal de vous. C'est souvent le lot du leader. Mais Dieu a fait évoluer tellement les sentiments de ses frères que maintenant ce sont ses frères qui viennent l'encourager, qui viennent le soutenir. Donc Dieu a transformé les propres frères de David afin qu'ils l'apprécient, afin qu'ils le soutiennent. Et c'est ça, c'est une grâce de Dieu, que Dieu peut faire ce miracle, que ceux-là même qui vous critiquent, que Dieu mette des sentiments dans leur cœur pour vous soutenir. Ça, c'est un miracle que Dieu a fait pour les frères de David. Maintenant, les frères ont évolué, ils ont compris que David, c'est vraiment le leader selon le cœur de Dieu. Et il n'a pas été accepté tout de suite, et puis il y a eu ce temps de rejet, mais David a pardonné, il a oublié. Un leader qui ne sait pas pardonner, il ne peut pas servir Dieu. Ses frères sont allés vers lui, David aurait pu leur dire, mais vous, pourquoi vous venez vers moi, vous m'avez mal jugé. Il les accueille, malgré leurs erreurs. Malgré leur méchanceté, ils les pardonnent, ils se réconcilient et ils vont continuer à servir ensemble. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises aujourd'hui parce qu'il y a un manque de pardon. On ne veut pas pardonner, on ne sait pas pardonner. On entretient de l'amertume, de la rancœur, de la jalousie et cela débouche sur une sécheresse spirituelle. On ne peut pas avancer dans ces circonstances. David l'a compris, il est leader selon le cœur de Dieu et il pardonne et il dit, bon, ça c'était hier, maintenant on regarde de l'avant. Il y a une destinée, il y a une direction pour sa vie et il veut avancer. David se retrouve ici le chef d'une troupe hétéroclite. Il y a des gens qui se trouvaient dans la détresse, des créanciers, des mécontents. Vous voyez, c'est des gens qui ne feraient pas confiance comme ça facilement. Vous ne leur laisseriez pas votre portefeuille. Vous auriez peur qu'ils vous dérobent tout. La plupart diraient, mais avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Ils n'ont pas les capacités, ils sont vraiment d'un mauvais caractère, il va falloir que Dieu fasse quelque chose avec ces gens. Eh bien, David a pris ce qu'il avait, cette troupe, qui était vraiment composée de toutes sortes de personnes différentes, mais Dieu savait qu'avec ces gens-là, David pourrait faire quelque chose. Et au contact de David, en fait, ils ont grandi. Pourquoi? Parce que David était rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes en communion avec Dieu, les gens qui sont autour de vous sont édifiés. Ils ont été édifiés au contact de David. Et dans cette troupe, où vous voyez ces gens mécontents, créanciers, dans la détresse, C'est là qu'on va trouver ceux qui deviendront les vaillants hommes de David, qui seront des chefs, qui auront de l'autorité et qui remporteront des victoires contre les Philistins. Ils vont être au contact de David élevés. En fait, David ne les a pas vus comme ils étaient, mais il a vu, oui, il les a vus comme ils étaient, mais il a vu aussi en eux comment Dieu pouvait les transformer et ce qu'ils allaient devenir. En fait, le leader doit être visionnaire. Il voit la personne, mais il voit en même temps ce que Dieu a mis dans son cœur et les possibilités que Dieu peut utiliser pour transformer sa vie et le rendre utile dans sa maison. Il a vu le potentiel, il a vu des qualités qui n'étaient pas encore visibles. Il voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est dans la foi. Il perçoit que Dieu va utiliser celui-ci, que Dieu va utiliser celle-là. Et ça, c'est quelque chose que David avait et qui a permis à ces gens de grandir. Ils ne se sont pas sentis écrasés, ils ne se sont pas sentis rabaissés, mais ils se sont sentis édifiés et ils ont pu servir à un haut niveau de service parce que David les a attirés vers les choses de Dieu. Autre caractéristique du leader, le leader serviteur, il consulte souvent Dieu et pour tout. 1 Samuel 23, verset 2. David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je les Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit « Va et tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ?» David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit « Lève-toi et descends à Keïla, car je la livre. » Je livre les Philistins entre tes mains. C'est très intéressant cette expression « consulter l'Éternel » parce que chez David, lisez son histoire, vous verrez que ça revient très souvent. Il consultait l'Éternel tout le temps et pour tout. C'est une particularité du leader. Il cherche à savoir la volonté de Dieu. Il consulte Dieu, il prie, il s'attend à recevoir une directive. Dieu lui parle et il se laisse conduire. Un peu plus loin, il dit, il voulait des précisions, par exemple sur Saül. Et il dit à Dieu, « Daigne le révéler à ton serviteur. » Et Dieu lui parle. Il a besoin constamment que Dieu le dirige. Est-ce que nous recherchons la volonté de Dieu? Est-ce que nous prions, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment les choses vont se passer? Que Dieu nous aide, que Dieu nous parle. Et Dieu parle avec précision. Il lui indique tout ce dont il a besoin. En fait, le leader serviteur, il dépend de Dieu à chaque pas. Il ne va pas faire un pas de travers, il cherche les directives et il prie. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, quand il dit « priez sans cesse ». Priez sans cesse, cherchez la volonté de Dieu, écoutez sa voix et priez, demandez-lui ce qu'il faut faire. Une attitude tournée vers Dieu. Par exemple, quand vous témoignez à quelqu'un, vous lui parlez du Seigneur, en même temps, priez dans votre cœur, « Seigneur, donne-moi une parole pour cette personne ». Et Dieu vous révèle un mot, peut-être une situation, une parole de connaissance. L'Esprit vous parle. Ou alors quand vous devez donner un conseil à votre enfant, priez, Seigneur, donne-moi le bon conseil, que ça soit judicieux pour sa vie. Quand vous devez vous engager dans un contrat, souscrire, vous devez signer, priez, confirme, Seigneur, que c'est bien ta volonté. Avant de réfléchir et de dire, mince, j'aurais jamais dû m'engager. Mais nous prions, nous demandons avant. Et si Dieu nous retire la paix, c'est qu'il nous avertit. Attention, ce n'est pas la bonne voie. La plupart des croyants font l'inverse. On commence par faire, on dit « Dieu bénit toutes mes entreprises ». Et puis après, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça se casse la figure. Mais si nous nous laissions conduire davantage, eh bien nous ferions vraiment sa volonté. Que Dieu nous aide. On rencontre des gens qui disent « Seigneur, bénis mon mariage ». Mais ils n'ont pas prié pour chercher la volonté de Dieu et ils ne se sont pas laissés conduire pour trouver la bonne personne. Ils prient pour que Dieu leur ouvre la bonne porte, mais ils ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire dans leur cœur. Mais ils prient pour que Dieu ouvre cette porte. Donc nous devons d'abord chercher la volonté de Dieu et ensuite nous savons que lui, il nous conduira. Autre caractéristique, le leader sait se tenir à l'écart en attendant un moment plus favorable. 1 Samuel 23, 18, c'est David et Jonathan, ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. David sait qu'il ne peut pas rester dans la présence du roi Saül. Il y a trop d'opposition entre eux, c'est dommage, mais il doit quitter le palais royal. C'est dommage, il va perdre des privilèges. Il était bien, il y avait la meilleure nourriture, alors il y avait tout, il y avait le foie gras, le cassoulet toulousain, il y avait tout le confort. Jérusalem, la ville, c'est là comme la capitale, il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Il y a les sorties, les activités, il était heureux, il était même connu. Pourquoi partir ? Mais il sait qu'à ce moment-là, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Il n'est pas attaché à ces choses. Les banquets du roi, la cour royale, tout ça, c'est futile. Il sait qu'il doit partir. Il sait qu'il va être un temps à l'écart. Et David accepte la forêt. C'est plus le même confort. C'est plus la même qualité de vie. Il va se cacher dans les bois. Il va devoir chercher sa nourriture, nourrir les gens qui sont avec lui. Il va devoir trouver un abri pour la nuit. C'est une vie compliquée. C'est difficile ce qu'il accepte. Mais il sait que c'est le chemin pour avancer, pour continuer. Il ne peut plus rester au palais avec Saül. Ce n'est plus possible. Et il devra trouver maintenant une nouvelle orientation. Et puis même, il doit quitter son ami Jonathan. Ça a été quelque chose de terrible. Parce que David et Jonathan, c'était les deux meilleurs amis. Ils avaient fait alliance. Ils étaient unis, mais il a dû le quitter à cause de Saül. Et il sait que son meilleur ami, maintenant, ne pourra pas le suivre et ne pourra plus rien pour lui. Il est tout seul avec sa troupe dans la forêt. Mais j'aimerais dire qu'on peut être comme David pour un temps de côté, mais la bénédiction de Dieu n'a pas quitté David. Tandis que Saül, il était toujours dans son palais, il avait toujours sa table bien garnie, il avait les bons vins, il avait tout le confort, mais la présence de Dieu n'était plus dans sa vie. Un mauvais esprit le tourmentait. Il était spirituellement mort. Il était loin du Seigneur. Le leader serviteur, il sait se mettre à l'écart, mais la bénédiction de Dieu reste sur sa vie et David a continué à composer des psaumes. La plupart des psaumes que David a composés, c'est dans ces moments où il fuyait Saül et là, il a été inspiré à de nombreux psaumes. Autre caractéristique, le leader sait que Dieu est avec lui et qu'il contrôle toutes choses. 1 Samuel 23, verset 26. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Ah, il était en difficulté, Saül le pourchassait et il allait en tout lieu pour l'attraper, le faire mourir. Ça a duré plusieurs années. Cette fois-ci, on semble que c'est la fin parce que l'armée de Saül est très nombreuse. David est limité. Il est encerclé par cette armée de Saül. Et à ce moment-là, il pourrait dire à Dieu, « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi mon ennemi est-il plus puissant que moi ? Pourquoi est-ce que je ne me sors pas de cette situation ? Il n'avait pas d'issue. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu ?» Et au dernier moment, alors qu'il allait être pris et tué probablement par Saül, au dernier moment, un messager dit, « Non, non, Saül, tu dois retourner. On est attaqué par les Philistins. Vite, retournons dans notre pays. » Au dernier moment, le Seigneur est intervenu. Frères et sœurs, parfois le Seigneur intervient au dernier moment et nous devons lui faire confiance jusqu'au bout. David a fait confiance à Dieu. Il a dit, maintenant Seigneur, moi je ne peux plus rien faire. Eh bien, prends le contrôle de cette situation et délivre ton serviteur. Et Dieu l'a fait. Il l'a fait au dernier moment. Que Dieu soit béni. Peut-être vous êtes sur le point d'abandonner parce que vous avez dit, Dieu n'est pas intervenu. On ne peut plus lui faire confiance et vous êtes déçus. Mais Dieu n'intervient pas toujours quand vous le voulez ou comme vous le voulez. Il intervient quand il l'a décidé et à sa manière. Et David sait que Dieu est au contrôle de tout. Et frères et sœurs, même si tout est perdu, Dieu est toujours au contrôle de tout dans votre situation. Gloire à Dieu. C'est arrivé à Joseph, on connaît bien son histoire, rejeté par ses frères, vendu dans la prison, méprisé, abandonné des hommes. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Et à la fin de son histoire, dans Genèse 50, verset 20, il revoit ses frères, qui maintenant, lui, il a une position, il est en Égypte, le second après Pharaon. Eux, ils sont toujours au même niveau. Vous aviez médité de me faire du mal. Il parle à ses frères. Ce qu'ils ont fait, c'était mal. Mais il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il dit, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Est-ce qu'on peut réaliser que même le mal qu'on nous fait, Dieu peut le changer en bien? Dieu est au contrôle de toutes choses. On ne le voit pas. Joseph ne le comprenait pas, il ne le cernait pas, il ne le réalisait pas. Il l'a réalisé après. Mais Dieu utilise même le mal et le transforme en bien, que son nom soit béni. Un autre point, le leader, il ne se laisse pas conduire par la pression. 1 Samuel 24, versets 5 à 8. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. » « Traite-le comme bon te semblera. » Il s'agit de Saül. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Ah, c'était une occasion pour David de tuer Saül. Et la pression est celle-ci, c'est que tous ces gens qui sont là dans la caverne avec lui lui disent « Mais tue-le, c'est ton ennemi, Dieu l'a livré entre tes mains. » Et c'était facile pour David de céder à la pression et de tuer Saül là dans la caverne. C'était terminé. Et il y a toujours des gens qui vont vous pousser à faire quelque chose de mauvais, qui vont vous pousser à vous jeter contre l'un, à mépriser l'autre, à dire du mal d'un troisième. David n'a pas cédé à la pression. La pression existe, la pression est forte. David n'entre pas dans leur considération. D'ailleurs, il ne l'appelle pas mon ennemi. Regardez comment il l'appelle. Il l'appelle mon Seigneur. Il l'appelle loin de l'Éternel. Les hommes l'appelaient l'ennemi de David. Mais David a une autre considération. Il ne suit pas leur raisonnement, il n'est pas dans leur jugement, dans leur esprit mauvais, mal tourné. Mais c'est vrai que cet homme avait des fautes. C'est vrai que cet homme, Saül, avait des failles dans sa vie. Il avait laissé accès à la colère. Il y avait des problèmes à régler. Mais David considérait que maintenant, sa vie est entre les mains de Dieu. Ce n'était pas à moi, David, de le tuer, mais il disait, Dieu va s'occuper de son cas. Il disait, c'est à l'Éternel de le frapper, que son jour vienne, qu'il meure de vieillesse, ou alors qu'il meure au combat, mais je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Il avait ce respect et une manière de parler, voyez, qui était édifiante, qui était bonne. Et ça, c'est comme ça qu'il a conduit ces hommes à avoir plus de respect pour les autres. Et la manière dont on parle des autres, ça révèle aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Un autre point concernant David et le leader, il sait respecter les autorités que Dieu a instituées. Dans 1 Samuel 24, verset 12, il parle encore de Saül, toujours son ennemi, et il dit, « Vois mon père, » il parle à Saül, « Vois mon père, vois donc le pan du manteau qui est dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David sait qui est Saül. C'est un père. C'est même son beau-père, puisqu'il est marié avec la fille de Saül. Mais quand il lui père, il reconnaît en lui cette autorité spirituelle qui lui a été donnée de Dieu, par Dieu. Même s'il n'est pas d'accord avec les agissements de Saül, qui est mauvais, qui est un mauvais roi, il sait que c'est Dieu qui l'a oint et que Dieu l'a placé ici. Et il le respecte en l'appelant mon père. C'est le même Saül qui est cet ennemi qui lui veut du mal. Mais David, lui, il reconnaît qu'il n'est que fils. Il sait qu'un jour, lui aussi, il sera un père pour cette nation d'Israël, qu'il sera roi à la place de Saül. Mais en attendant, il respecte Saül qui a été établi par Dieu jusqu'à ce que Dieu le fasse partir pour que lui prenne la place. Par contre, il dénonce ses mauvaises actions. Tu me dresses des embûches, tu veux m'ôter la vie. Il dit qu'il n'a rien fait de mal, et c'est vrai, il a raison. Mais néanmoins, il respecte Saül comme une autorité spirituelle, même s'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il sait qui est placé au-dessus de lui. Un leader sait fonctionner de cette manière-là. Sinon, il ne peut pas servir dans le corps de Christ. Ce n'est pas possible. Quelques éléments sur David, mais surtout qui nous parlent de ce que c'est qu'être un leader. Un leader serviteur, un leader qui se met au service des autres et qui est prêt à en payer le prix. David est toujours resté un leader. Et j'aimerais dire que dans la vie de David, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il est resté un leader selon le cœur de Dieu. N'imaginez pas que servir Dieu, c'est toujours les hauts. Il y aura des hauts et des bas. Et le leader sait traverser les hauts et les bas. Dans Philippiens 4, 12, Paul l'explique ainsi. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il y a les bas, il y a les hauts. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et Paul n'a jamais cessé d'être un leader serviteur dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les temps d'abondance comme dans les temps de disette. Et bien que Dieu nous donne ce cœur pour son service, pour son œuvre, un cœur de leader serviteur, quelqu'un qui se met à part, qui cherche la face de Dieu. J'aimerais qu'on prie un instant. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous croyons que tu appelles encore aujourd'hui des hommes, des femmes pour se lever à ton service, pour entrer, Seigneur, dans les projets que tu as pour chacun. Et tu suscites encore des leaders, des serviteurs, des responsables qui pourront, comme David, faire avec ce qu'ils ont sous la main, qui pourront, Seigneur, travailler dans l'œuvre de Dieu et prendre des responsabilités en reconnaissant qui tu as institué, en travaillant, Seigneur, en collaborant, en étant des leaders serviteurs sensibles à ta voix, cherchant à connaître ta volonté, à ne pas chercher leur propre plan, leur propre désir, mais cherchant à mieux connaître ce que toi tu désires. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Restons dans le recueillement un instant. Et j'aimerais prier pour quelqu'un peut-être qui est dans cette situation, qui a à cœur de servir, à cœur d'être un responsable, d'être un leader, et qui est dans cette phase, comme David, de rejet, mis de côté, et qui a besoin vraiment d'être fortifié, encouragé. Tout simplement, j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place, et je vais prier pour vous maintenant. Si ça concerne quelqu'un, faites-le maintenant, et nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia, Seigneur. Merci pour ces bien-aimés, Seigneur, qui se tiennent debout devant toi. Je te prie, Seigneur, de les soutenir, de les accompagner, de leur donner ta grâce, de venir à leur secours, parce que tu as un plan merveilleux pour chacun, Seigneur. Et nous te prions d'ouvrir des nouvelles opportunités et de leur donner ta consolation dans les moments de difficulté, peut-être dans les détours, dans les chemins de détours, dans les chemins de souffrance. Parce que tu as un plan, peut-être quelqu'un ne sait plus du tout où il en est, mais je te prie, Seigneur, de venir avec ta compassion, avec ton amour, de bénir, Seigneur, chacun, de fortifier les cœurs, de donner, Seigneur, cette claire vision, que tu es au contrôle de toutes choses, alors que tout s'effondre peut-être autour de nous, alors qu'on a perdu des possibilités, mais nous ne perdons pas courage, nous ne perdons pas espoir, tu es notre Dieu, et nous te faisons confiance dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.